Bienvenue sur Foxeo. Ayant démarré mon business de zéro en 2018, je suis convaincue qu'on peut bien vivre de nos métiers en trouvant nos clients en direct et en développant surtout nos compétences commerciales. Moi, c'est Muriel et ma mission, c'est de vous aider en tant que femme freelance à vous développer et à vous vendre avec confiance. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je parlerai de stratégie, de développement commercial, de marketing de contenu, d'expérience client et de mindset. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Merci de votre écoute. Bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast Foxeo. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Célia Ducrot, fondatrice de Célia DCS. Et aujourd'hui, le sujet du jour, donc, c'est « Transforme ton expertise en formation pour développer ton biz ». Donc, l'idée, bah, c'est de parler formation. Peut-être que, je sais que dans mon auditoire, il y a beaucoup de femmes consultantes, coachs, consultantes en communication, coachs en entreprise, donc tous les métiers, on va dire, de prestation de services en entreprise. Et beaucoup ont aussi une autre casquette, celle de formatrice, ou en tout cas se posent la question à un moment donné, tiens, j'ai plus envie de faire uniquement de la prestation opérationnelle. J'ai envie de faire de la formation. Comment je peux faire? Est-ce que je peux devenir formatrice? Quelles sont les règles? Est-ce que je dois devenir organisme de formation obligatoirement ou pas? Et comment se passe aujourd'hui le marché de la formation? Donc, l'idée de l'épisode du jour, bah, c'est de débroussailler un petit peu tout ça en s'appuyant bah, sur le parcours de Célia, qui est dans ce milieu depuis de nombreuses années maintenant et à son compte bah, depuis octobre 2022, si j'ai bonne mémoire. Célia, merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bah, surtout, je te laisse la parole pour te présenter plus en détail.
Tout d'abord, merci à toi, Muriel, pour cette opportunité, à la fois de faire connaître mon activité, mais surtout, effectivement, de répondre aux questions que peuvent se poser les personnes qui auraient la volonté de créer une action de formation, de devenir, en tout cas, formateur, et d'ajouter cette belle corde à leur arc. Bah, du coup, je m'appelle Célia, donc j'ai 35 ans, et je suis née, j'ai grandi au milieu des montagnes à Grenoble. J'ai un petit garçon de 6 ans et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai effectivement créé mon organisme de formation en octobre 2022, après 12 ans de salariat, dont 5 comme responsable formation. Alors aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs multi-activités à développer et à pérenniser leur business grâce à leur programme et ou offre signature.
Est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment tu es tombée dans le milieu de la formation puisque ça fait un moment que tu baignes dedans?
Oui, alors bah, le milieu de la formation, j'y suis tombée un petit peu par hasard, à vrai dire. Ça faisait déjà 6 ans que je travaillais, que j'étais en poste et j'étais chargée de la communication et de l'événementiel au sein d'une association sur Grenoble. Et puis, en 2017, ça faisait la deuxième responsable formation en 2 ans et demi qui décide de nous quitter. Et ça, juste avant la saison. Donc, un petit peu tout le monde en panique. Et si tu veux, moi, j'y ai vu l'opportunité. Franchement, j'y ai vu une opportunité. Je me suis dit, c'est peut-être ta chance, en fait. Voilà. Et puis, d'autant plus que je commençais à m'ennuyer dans la com. J'avais peut-être le sentiment d'en avoir un peu fait le tour. Ça faisait déjà 6 ans que je faisais ça. Et puis je suis d'un naturel à me challenger. Donc, voilà, c'est naturellement que j'ai postulé en interne et que ma candidature a été acceptée. Alors après, j'ai réellement pris mon poste en 2018 à mon retour de congé maternité. Et ce qui a plutôt été une bonne chose parce que je me suis appuyée sur la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui était sortie quelques mois auparavant pour vraiment me permettre de professionnaliser en fait l'organisme de formation qui à l'époque avait déjà un petit peu plus de 40 ans d'existence.
Et du coup, ton association était aussi organisme de formation, c'était ça, oui.
C'est ça. En fait, c'est une association de loi 1901. On avait tout un volet de prévention et de sensibilisation pour le grand public. Et on avait aussi toute une partie formation des usagers professionnels, en fait, face au risque d'avalanche, donc une thématique spécifique. Mm-hmm. Et j'avais à charge, moi, de m'occuper de toute cette partie-là.
Ok. Alors moi, j'ai forcément envie de te poser plusieurs questions sur le sujet, notamment celle des budgets. Parce que moi, j'ai toujours fait un petit peu de formation, donc c'était... C'est pas le gros de mon activité. On va dire, j'ai toujours eu plus de prestations et de conseils. Et j'ai fait un petit peu de formation, que ce soit en école ou en entreprise. Et ce que j'ai constaté, enfin, en tout cas, quand je travaillais en collaboration avec des OF, c'est que les budgets, enfin, ils disaient toujours, oh là là, les règles sont toujours de plus en plus difficiles, il y a de plus en plus d'administratifs, de lourdeurs administratives. Et les budgets, d'année en année, ont tendance à fondre un petit peu comme neige au soleil par rapport au il y a X années en arrière où c'était un peu open bar. Donc je pense qu'il y a eu des dérives et qu'il fallait un petit peu réguler. Mais du coup, est-ce que c'est toujours intéressant de se lancer dans une activité de formateur avec un contexte où les budgets sont un petit peu plus serrés?
Alors oui, effectivement, tu as soulevé deux points intéressants. Il y a effectivement la diminution des budgets, notamment de l'enveloppe du plan de développement des compétences pour les entreprises et la lourdeur administrative, mais ce sont bien deux choses différentes. Donc sur la partie des budgets, effectivement, il y a une baisse effectivement significative de l'enveloppe allouée sur la partie plan de développement de compétences. Toutefois, il y a une étude qui est sortie en 2023 là, pour faire le point sur justement l'année écoulée. Et qui présente que 90% des Français estiment qu'il est nécessaire de se former pour rester compétitif sur le marché du travail. Donc, si tu veux, malgré les baisses des enveloppes allouées, pour moi, le besoin en formation, il est toujours bel et bien présent et il le sera encore pour longtemps, sachant que la formation professionnelle, elle a un intérêt à la fois pour l'employeur, mais aussi pour le salarié. Pour l'employeur, ça va permettre en fait de former ses salariés. Ça peut être un levier pour les inciter à s'impliquer davantage dans l'entreprise. Ça peut limiter aussi le turnover au sein des équipes. Et c'est intéressant, surtout lorsqu'on connaît les difficultés de recrutement actuelles.
De fidéliser les talents et puis développer aussi le bien-être en entreprise, enfin l'évolution quoi. Sinon,
Oui, voilà, bah oui, forcément, c'est ça. Adapter aussi son poste au changement hein, du monde du travail, aux nouveaux outils aussi avec lesquels on travaille. Et puis pour le salarié, l'avantage, c'est que ça va lui apporter donc une meilleure satisfaction à son poste. Ça rejoint ce que tu dis effectivement sur le bien-être en entreprise. Mais aussi, selon moi, ça peut apporter de la reconnaissance de la part de ses pairs, mais aussi de la part de la hiérarchie. Et c'est vrai que c'est un aspect qu'on néglige peut-être bien trop souvent dans le monde de l'entreprise. Ouais.
Oui, moi, je me souviens que moi, par exemple, quand j'étais salariée, donc ça dépendait des boîtes où j'étais, les grands groupes, il y avait souvent des plans de formation, mais ce n'était pas des formations personnalisées. Hein. C'était, voilà, on te forme sur les sujets-là, mais tu ne pouvais pas choisir. Et certaines entreprises, à l'inverse, te disaient, bah voilà, si tu as envie de te former, là, on a l'habitude de travailler avec un tel, voilà le catalogue, et puis regarde s'il y a quelque chose qui te fait envie. Et d'autres où il n'y avait absolument rien. Et effectivement, ça participe au fait de vouloir rester plus longtemps dans l'entreprise, tu vois, de te former. Et puis nous, en tant qu'indépendants, c'est pareil. Enfin, moi, j'ai besoin, en tout cas, une fois par an, je vais forcément prendre une formation ou un accompagnement plus poussé. Mais il y a toujours un besoin, à un moment donné, d'accompagnement. Les sujets varient d'une année à l'autre, mais c'est important pour se challenger, évoluer et sentir toujours qu'on progresse et qu'on grandit, quoi.
Bah déjà, et puis ça, je pense que c'est aussi ça rejoint une volonté de la part de l'entreprise. Comme tu dis, il y a des entreprises qui n'ont pas du tout cette ambition-là de former leurs salariés, de les impliquer davantage au sein de leur entreprise et de leur poste. Ça peut aussi être le cas pour un travailleur indépendant, tu vois, quelqu'un qui va rester sur ses acquis. Alors peut-être par méconnaissance de tous les dispositifs qu'il a à sa disposition ou simplement parce qu'il n'en ressent pas le besoin. Mais il y a des entreprises aujourd'hui, poussées peut-être par la demande aussi de leurs salariés, qui ont mis en avant vraiment le fait de financer la formation de leurs salariés et de valoriser leur montée en compétences comme un véritable argument de recrutement.
Complètement. Est-ce que tu as des chiffres donc actuels sur savoir à peu près combien ça pèse ce marché-là aujourd'hui?
Oui, alors le marché de la formation professionnelle en France pour l'année 2023, c'est 15,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et un engagement de l'État renouvelé pour 2024 à hauteur de plus de 15 milliards d'euros, alors avec comme axe prioritaire l'apprentissage, le CPF et la formation des demandeurs d'emploi.
Ok, c'est les trois axes.
C'est les trois axes, voilà. Donc on peut dire que le marché de la formation professionnelle est un marché en pleine croissance, mais également en pleine transformation, notamment sur toutes les questions de cybersécurité et transition écologique, numérique,
Ok,
par exemple.
d'accord. Et par rapport à la part sur le plan de compétences, tu vois, enfin sur le sujet qui l'intéresse, donc toi tu aides, tu formes hein, des futurs formateurs quoi, qui vont monter leur programme. Donc sur le marché-là, je crois, comme tu dis, hein, c'est ce plan de compétences, il me semble que c'est ça, ce qu'on appelle.
Le plan de développement de
Plan de
compétences,
développement de
ouais.
compétences. Est-ce que, du coup, tu sais si cette part-là, elle va être stable, maintenue, ou s'il y a encore une baisse? Est-ce que tu as du retour là-dessus ou pas encore?
Alors, le retour que j'en ai eu, c'est qu'effectivement, l'enveloppe plan de développement de compétences, elle diminue. Alors après, ça dépend aussi des branches, ça dépend des secteurs d'activité. Alors là, je n'ai pas de réponse générique à donner, en fait. Il faut se renseigner directement auprès de son opérateur de compétences, voilà, pour connaître les fonds alloués.
Et à savoir que, parce que très peu d'indépendants l'utilisent, mais peu importe notre statut, on est tous raccrochés à un OPCO et on peut utiliser une petite enveloppe de formation chaque année.
Oui, en fait, si tu es ce qu'on appelle enfin, en fait, la formation professionnelle, elle s'adresse à des actifs. Donc, considérés comme des actifs, sont considérés comme des actifs, pardon, toutes les personnes, sauf les étudiants et les retraités. Donc, à partir du moment où tu es actif, quel que soit ton statut, que tu sois fonctionnaire dans une entreprise privée ou bien salarié à ton, enfin, entrepreneur à ton compte, tu as effectivement le droit à des financements pour t'aider et t'accompagner dans ta montée en compétences tout au long de ta carrière professionnelle.
Même un micro-entrepreneur.
Même un micro-entrepreneur. À partir du moment où tu as un numéro de Siret, oui, effectivement, tu es identifié comme un actif et donc tu as le droit à débloquer ces budgets-là, ouais.
Faut juste attendre d'avoir au moins cotisé une fois. Voilà. De mémoire, il me semble que c'est pas au bout de 3 mois tu y as accès, faut
Oui, c'est ça.
ou
Non, 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 non. Il
un
y a une
an, voilà.
cotisation, effectivement. Après, si tu es travailleur non salarié à ton compte, oui, tu as une attestation à aller chercher sur ton compte URSSAF pour transmettre avec ta première demande auprès du FIFPL, par exemple. Ouais.
Ok, j'espère que ça que ça va aller pour les auditeurs. Je sais que c'est un milieu un petit peu complexe où il y a plein, voilà, il y a différents opcos, différentes branches. En fait, chacun dépend d'un opco différent en fonction du code d'activité.
C'est ça, de la nature de son
Voilà.
activité. Il y a beaucoup d'acteurs et c'est un milieu qui est réglementé et ça change aussi régulièrement. Il y a beaucoup de décrets, donc il faut aussi se tenir au courant de tout ce qui sort et Calliope qui rajoute par-dessus tout ça. C'est pas forcément une contrainte, mais beaucoup la voient comme telle ou ouais, une contrainte supplémentaire. Ouais.
Oui. Est-ce que c'est pas du coup un marché qui est saturé? Quelqu'un qui se dit, bah tiens, je vais me lancer dans la formation, est-ce que j'arrive pas après la guerre, quoi?
Alors moi, je ne dirais pas saturé, je dirais plutôt concurrentiel, voire très concurrentiel. Mais pour moi, si tu veux, il y a autant de méthodes d'apprentissage qu'il y a de formateurs et d'apprenants. Donc, il y a moyen pour chacun de prendre sa place, d'autant plus si tu es capable, à mon sens, d'apporter quelque chose de nouveau. Je ne te dis pas d'aller faire un truc incroyable et d'emmener tes stagiaires sur la Lune, hein. Mais par exemple, proposer du sur-mesure ou un accompagnement personnalisé. Ça peut être aussi transformer un parcours de formation ou d'accompagnement en une expérience unique. Il faut vraiment que tu apportes quelque chose de nouveau, parce que comme tu dis aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent attribué ou alloué, en tout cas, à ces formations-là. Néanmoins, elles restent nécessaires pour la plupart des salariés, mais aussi pour la plupart des travailleurs indépendants. Parce qu'on a besoin de se former aux nouvelles technologies. Je pense là notamment à l'IA, ce qui me vient en tête tout de suite. Mais il y a plein d'autres choses. Et donc, il faut que tu arrives en fait à, pour moi, à te différencier. Si tu arrives à te différencier et à donner vraiment de la valeur à ta formation, en plus de ce que tu vas leur apporter en termes de compétences techniques pures, voilà, tu vois, si tu rajoutes à ça de l'humain et tu leur fais vivre une expérience, et si en plus tu arrives à susciter des prises de conscience, voilà, pour moi, c'est le graal ultime du formateur, quoi.
Et du coup, est-ce qu'il faut faire une formation pour être formateur ou quelqu'un qui est expérimenté parce que moi, pour le coup, je suis le cas typique, j'ai pas eu de formation pour être formatrice. C'est mon expérience, mes années d'expérience qui m'ont amené à le faire. J'ai eu des propositions et j'ai accepté. Puis voilà, ça s'est fait comme ça et je me suis retrouvée. Je me souviens, tu vois, les premières fois où je suis intervenue en formation, que ce soit en entreprise ou en école, face à des étudiants de licence, de master ou en école de commerce. Je me suis quand même dit, punaise, c'est chouette, on me fait confiance, mais à la base, donc je suis intervenante, hein, je ne suis pas prof, mais je me suis dit, ben, la méthode, la manière de. Tu vois, je me suis aiguisée sur le terrain. On ne m'a jamais demandé, d'abord, il faut que tu te formes sur comment on fait un cours, quoi. Donc, je me suis basée sur moi, mon expérience d'étudiante. J'avais été jusqu'en master, donc je me suis dit, ben, voilà, moi, je me souviens que les profs, s'ils faisaient que ça m'ennuyait, s'ils faisaient ça, voilà, tu vois, enfin, un peu. Au feeling, au ressenti et en partageant les expériences terrain. Mais Mais dans les faits, donc, est-ce que tout le monde peut aussi, comme moi, devenir formateur comme ça du jour au lendemain, j'ai envie de dire, ou il faut passer par un process bien spécifique?
Bah, je te répondrai en te disant qu'en fait, à partir du moment où tu as une expertise et que tu as l'envie de la partager, tu peux devenir formateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme reconnu officiellement, il n'y a pas de cursus pour faire enfin, devenir formateur. Le milieu de la formation est réglementé, le parcours pour devenir formateur ne l'est pas. Alors après, il y a des gens qui vont effectivement suivre une formation de formateur pour une question de crédibilité, de légitimité. Voilà, en fonction de leur sensibilité, hein. Mais tu as des personnes, généralement, quand elles ont fait plusieurs années, tu sais, le même travail, elles ont acquis une compétence, une expertise, et au bout d'un moment, elles décident de la partager, soit parce qu'on leur demande. Donc, voilà, bah, tiens, ce que tu fais nous intéresse, est-ce que tu voudrais venir faire une intervention? Et puis finalement, elles se rendent compte que ça leur plaît aussi de transmettre ça. Et ou alors, oui, effectivement, tu as des personnes qui ont cette envie-là dès le départ et qui vont vouloir, par contre, se rassurer peut-être avec une formation, parce que bon, dans les formations de formateurs, c'est intéressant ce qu'on apprend. On apprend la conception pédagogique d'une formation, surtout qu'une formation professionnelle, elle doit répondre à des critères un peu spécifiques aussi. Mais après, de l'accompagnement, je ne sais pas si tu décides d'accompagner des gens dans le cadre c'est pas du loisir, mais tu vois, plus sur le développement personnel, par exemple, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de, tu n'es pas obligé d'appliquer une méthode en fait.
Donc en fait, Calliope est là, enfin, eux, ils arrivent en bout de chaîne, parce que Calliope, ça va être, tiens, attestation de feuille de présence, des quiz de démarrage, de formation, où est-ce qu'il en est l'apprenant au début, où est-ce qu'il en est à la fin. Enfin, ça permet d'ajouter plein de petites choses comme ça au parcours et de cadrer, ben, justement, un peu plus ça. Mais je me dis, tiens, j'ai l'impression qu'en France, on fait toujours les choses à l'envers, tu vois. On va durcir en bout de chaîne. Et puis finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà aussi mettre des choses en place d'entrée de jeu sur la casquette du formateur, quoi. Filtrer peut-être plus au démarrage pour que ça soit plus light par la suite.
Bah après, tu sais, j'ai pas de chiffres là-dessus. C'est vrai, je m'étais pas posé la question avant que tu m'en
Ben non
parles,
plus,
mais
c'est en discutant comme ça que je me dis, mais en fait.
un formateur qui va, je sais pas, quelqu'un qui se lance dans la formation et qui n'a pas un engagement vraiment réel dans ce projet-là,
Il fait
à
pas
mon
long feu.
avis, non, il fait pas long feu, parce que ça va se voir tout de suite. Pour moi, un formateur, quand on décide de devenir formateur, c'est un engagement réel et sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc après, comme tu dis, il y a Calliope, mais Calliope, c'est encore autre chose. Pour moi, pour revenir à la question, qui peut devenir formateur, c'est ce que je te disais, c'est la personne qui a une expertise et qui a la volonté de la transmettre et de la partager sans rétention d'informations et qui cherche pas à acquérir ce statut pour se faire mousser. La formation, c'est avant tout travailler pour et avec des humains. Pour moi, c'est comme ça que je la conçois, en tout cas. C'est transmettre à la fois un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Effectivement, des compétences, avoir des compétences, ton expertise, ok, mais tu as aussi des compétences relationnelles et comportementales à avoir.
Oui, complètement.
Ce qu'on appelle les fameuses soft skills et qu'on entend.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est important. Il n'y a pas que la. Parce que je pense que des fois, comme tu dis, il y a des personnes. Moi, j'ai fait rapidement de la formation, mais parce que j'avais de l'expérience déjà salariée. Pour autant, en tant qu'indépendante, j'étais un bébé entrepreneur, si tu veux. Et pour autant, j'ai donné des cours. Donc, c'est possible dès le démarrage, parce que, comme tu dis, j'avais cette envie. Aussi de j'ai vraiment cette envie de transmettre ça, pour moi c'est important que celles qui nous écoutent se disent bah oui bah je peux le faire même si j'ai pas 5 ans ou X années derrière moi ou 10 ans dans le métier, qu'il y a vraiment ce côté j'ai envie, parce que tu vas avoir des personnes qui sont très expérimentées mais qui sont pas du tout faites pour être formateurs, qui arrivent pas à passer un message ou qui n'ont pas la passion de l'humain comme tu dis, ou qui font juste un truc descendant et puis voilà, il y a aucune interaction. C'est pas, y a pas que l'expertise finalement ou l'année d'expérience qui compte, quoi.
Ben, plus, en tout cas, c'est plus autant important qu'avant. Ouais. Non, non, surtout que d'autant plus, ce qui apparaît aujourd'hui, c'est effectivement enfin, surtout dans la formation pour adultes. Tu vas t'adresser à un public qui a avec lui déjà de l'expérience, qui a un bagou, qui a un vécu. Donc, il faut que tu prennes ça en compte aussi dans tes accompagnements. Et si tu n'as pas cette capacité d'adaptation quand tu décides de te lancer dans la formation, et si tu n'as pas cette passion et, comme je te disais, l'envie du partage, pour moi, tu peux être très bon dans ton expertise, mais tu vas perdre tes stagiaires très rapidement. Il faut que tu arrives à faire un tout, en fait. Et pour moi, un formateur, c'est un tout. C'est à la fois l'expertise, c'est à la fois la passion, l'envie de partager, c'est une posture. Les deux sont indissociables. Tu dois fonctionner comme ça. Et surtout que le formateur n'est plus de moins en moins le sachant, et on est beaucoup plus dans de l'échange.
Oui.
Et moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que si tu arrives en formation, même si tu n'as pas 15 ans d'expérience, mais que tu as des choses à dire et que tu estimes que tu as des choses à apporter, si jamais on te pose une question et tu n'as pas la réponse, ne surtout pas hésiter à leur dire que tu n'as pas la réponse et que tu vas te renseigner. Et tu vois, c'est ça aussi être formateur, c'est être dans cette démarche de j'ai pas la réponse, je vais aller chercher, je vais aller trouver. Et je vais aussi continuer, moi, à me former, à forger mon expertise et à élargir mon champ de compétences, en fait.
Mais ça, t'as tout à fait raison. Moi, je crois que c'était ma première hantise, c'est de me dire, mon Dieu, j'ai bossé le sujet-là, mais imagine, on me pose une question et je sèche. Parce que en fait, on te demande pas d'être une encyclopédie sur pattes, quoi. Et effectivement, ce qui compte après, c'est l'apport de situations réelles. Enfin, moi, je sais ce qui plaisait, c'était de dire, c'est pas juste je ponds ou je recrache ce qui a été dit dans un bouquin ou sur Google ou vraiment de la littérature pure, quoi, dans le domaine. C'est les apports en tant que formateur ou intervenant professionnel, l'apport du terrain. C'est qu'est-ce que tu as vécu auprès de cas clients pour enrichir et montrer le vrai contexte. C'est ça qui, pour moi, plaît plus. Et comme tu dis, bah, forcément, il y a des choses que tu sais pas, parce qu'on ne sait pas tout. Enfin, c'est impossible de tout savoir. Et puis, rien n'empêche de dire, OK, bah, je vais rechercher ou bah, la prochaine fois, je reviens vers toi avec une réponse, quoi, tout simplement.
Oui, c'est ça. Et ce sera d'autant plus appréciable de la part de tes stagiaires parce que tu vas gommer en fait cette espèce de hiérarchie entre le formateur et le stagiaire. Voilà. On est vraiment dans du partage et ok, tu vas délivrer ton discours, tu vas dérouler ton cours, mais tu vas aussi t'alimenter de ce que vont t'apporter les stagiaires. Et les stagiaires vont aussi s'alimenter entre eux parce qu'ils vont peut-être discuter de choses qu'ils n'évoquent peut-être jamais à la machine à café. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, pour moi, la formation professionnelle telle que je la conçois, c'est celle-ci. Et je pense aussi qu'il y a peut-être un ras-le-bol général du e-learning. Alors ouais, ok, c'est pratique parce qu'on visionne ça quand on a envie, en fonction de son planning, et on sait tous qu'on a des plannings un peu surchargés. Mais je pense que les gens maintenant ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être entendus. Et je dis pas que le rôle du formateur, c'est d'être un psychologue, hein, mais c'est aussi prendre en compte le vécu et le passé et l'expérience que le stagiaire peut apporter. Et il va lui aussi concevoir son propre, comment dire, sa propre montée en compétence par sa propre expérience. Et toi, tu es là pour lui faire prendre conscience de ça dans un premier temps et après lui dire, bah voilà, maintenant ça, ce que tu viens d'apprendre, comment tu vas l'implémenter dans ta vie par rapport à ton fonctionnement et ce que tu veux en faire en fait.
Super intéressant. Oui, je suis d'accord. Après, le e-learning, enfin, tout ce qui est e-learning ou formation en autonomie, pour moi, je trouve que c'est bien pour certaines fondations et ensuite, t'échanges en direct pour creuser certains points, pour pas perdre de temps, en gros, au lieu de répéter des fondamentaux, bah, tu te dis, bah, tiens, visionne ça et ensuite, on va bosser le sujet-là, on va aller plus loin sur le point-là ou sur des formats peut-être plus courts. Enfin, je pense que ça dépend. Tu as des sujets qui s'y prêtent et peut-être d'autres moins. Ça dépend de l'objectif aussi, ce que la personne recherche.
Ouais, je te rejoins totalement sur ce point-là. Les formations e-learning, moi, c'est pareil, je suis une grosse consommatrice de formation de mon côté. Je crois que l'année dernière, enfin, depuis 1 an et demi que je suis à mon compte, j'ai dû faire 4 ou 5 formations. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense que je suis plus souvent en formation qu'en train de travailler, mais oui, comme tu dis, ça, le module e-learning, il est confortable et il est adapté aussi à certains sujets, mais pas à tous les sujets. Et il y a des sujets où, quand tu as la prise en compte justement des soft skills, du parcours de chacun pour la montée en compétences, enfin, de le laisser en autonomie derrière son ordinateur et de faire ses propres schémas de pensée, enfin, pour moi, c'est contre-productif, quoi. Et ça va lui soulever plus de questions que d'apporter de réponses. Et ces formations-là en e-learning, elles ne correspondent pas. Alors après, je ne dis pas que le e-learning, c'est quelque chose qu'il faut bannir absolument. C'est juste que ça marche pour certains sujets, mais pas pour tous, quoi.
Oui. Moi, je l'ai testé. Moi, pour mes offres, j'avais fait un programme en collectif, puis je l'ai passé en individuel. Je l'ai mis à jour, je l'ai fait évoluer vers l'individuel parce que j'adore la proximité où tu vas justement dans le détail et en profondeur avec mes clientes. Et pendant mon congé maternité, j'ai testé le format en ostomie, en me disant, bon, il y a un vrai parcours, il a été testé, approuvé par une vingtaine d'entrepreneurs, donc je peux me permettre de le mettre en autonomie et je verrai bien. Et en me disant aussi, si demain, tu as besoin d'accompagnement, quand je reviens, on pourra reprendre des séances. Et en fait, j'ai bien vu que les personnes qui l'ont fait en autonomie, elles ont plein de questions derrière. Ou alors, elles vont partir. Je vois même quand je suis en accompagnement individuel, la personne voit la vidéo. Bah derrière, elle part ensuite dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et quand je suis en accompagnement avec elle, je peux rattraper le coup et je peux réaiguiller. Alors que si tu es toute seule en autonomie, bah, tu n'as personne pour. Tu n'as pas de regard extérieur. Et donc, tu interprètes la chose. Des fois plus ou moins bien, et puis tu peux partir dans une mauvaise direction finalement. Et je me dis que ça sert à ça, l'échange, comme tu dis, le partage, bah, c'est justement d'ajuster et de faire avancer la personne dans la bonne direction pour elle, quoi.
Oui, c'est ça. C'est bah, forcément, quand tu te lances sur des formations ou accompagnements, ou je veux dire, le sujet même, c'est l'humain, c'est la personne en tant que telle, dans sa prise de poste ou dans son projet professionnel, de la laisser en autonomie sur une plateforme e-learning, enfin, tu es sûr de la perdre, quoi. Alors après, tu peux effectivement proposer une partie de ta formation en e-learning, par exemple, sur tout ce qui est juridique, des choses qui ne vont pas bouger, tu vois, sur du par cœur, quoi. Enfin, c'est juste de la transmission d'informations, c'est factuel, c'est la loi, tu vas sur Internet, tu trouves les mêmes infos. Mais par contre, tout ce qui soulève des questions, pour moi, le e-learning n'est pas adapté, quoi. C'est aussi un peu opter pour la facilité de tout faire en e-learning et puis de dire, bah tiens, je vais faire une formation en e-learning et puis je vais générer avec ça des revenus passifs
Oui,
et
bon, ça c'est ouais, effectivement, je suis
je
pas.
vais siroter des piña coladas sur la plage et mon compte en banque qui va se remplir tout seul comme par magie, quoi. Ça, tu vas le faire peut-être un petit moment, mais très vite, les gens vont se rendre compte que c'est pas ce qu'ils veulent. Et toi non plus, en tant que formateur.
Pas ceux qui sont éthiques. Après,
Voilà,
voilà.
si tu corresponds et si tu te reconnais dans la définition du formateur qu'on a donné tout à l'heure, effectivement, ce programme-là, c'est pas quelque chose que tu vas développer, quoi.
Et quel conseil tu donnerais donc à quelqu'un qui souhaite créer un programme de formation?
Eh bien, le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui veut créer son programme de formation, en fait, j'en donnerais trois. Le premier, c'est vraiment se poser la question de savoir ce que tu veux véritablement. Quelle est ta motivation première pour te lancer dans cette nouvelle activité et ajouter cette nouvelle activité à ton arc? Parce qu'on sait qu'en général, quand on est formateur, on fait autre chose aussi à côté. Donc, ta motivation, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les rencontres, c'est le partage, peut-être les trois en même temps. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu veux transmettre et comment? On parlait du e-learning, on parlait
Du
du
format.
distanciel, on parlait du présentiel, voilà le format. Est-ce que tu veux faire des accompagnements dans la durée ou au contraire, est-ce que tu veux faire du one-shot? Voilà, c'est vraiment le deuxième point, c'est celui-là. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment te transmettre? Et le troisième point, pour qui? Pour qui tu veux t'engager? Parce que la formation, tu as les moments où tu animes, mais tu as aussi toute la phase de préparation qui prend énormément de temps, ce qu'on appelle la conception pédagogique. Et puis après, tu as aussi toute cette phase de recherche, en fait, et ton programme. Et c'est la posture du formateur, c'est aussi une remise en question perpétuelle. Est-ce que ce que j'applique là, ça se dit encore? Enfin, c'était d'actualité il y a 6 mois. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Donc voilà, c'est ça. Et puis les personnes que tu vas accompagner vont aussi changer. Leurs sensibilités vont peut-être aussi changer. Donc c'est ça. Est-ce que tu es prêt à tout ça? Et vraiment, pour qui tu veux le faire? Comment tu veux le faire? Est-ce que tu veux, au fond, véritablement que cette activité t'apporte?
Et justement, toi, est-ce que tu as un recul sur une vision ou en toi, qu'est-ce que tu sens sur, dire, sur le pouls de ton marché? Quel est le format que les personnes demandent? Parce que moi, j'ai senti des différences par rapport au tout début où je faisais des formations et maintenant, qui me vont très bien d'ailleurs, parce que c'était plus adapté à moi, sur la durée. Bah, je vais donner un exemple, ce sera peut-être plus précis. Par exemple, au tout début, je faisais énormément de formations de journée complète, peut-être 2, 3 jours d'affilée. Et en fait, c'était hyper drainant en termes d'énergie. Et puis pour les apprenants, bah pour voilà, les stagiaires, hein, les salariés en entreprise ou les entrepreneurs, c'est aussi les mettre dans une posture, même si voilà, ça demande plus d'efforts pour mettre bien en place des moments d'atelier, de co-construction, pour réveiller tout ça. C'est beaucoup plus lourd à porter, je trouve, pour le formateur. Et moi, je favorise, par exemple, plutôt les formats demi-journée, tu vois, matinée, enfin des formats de 3 heures. Et comme ça, entre les personnes, elles ont le temps aussi de digérer les choses. Tu vois, tu cogites entre et puis ça te monopolise. Alors, s'ils sont salariés, c'est encore mieux parce que ça ne monopolise pas toute la journée, parce que derrière, il faut qu'ils rattrapent leur travail. ou même quand tu es entrepreneur, en attendant, ton activité continue de tourner, puis il faut que tu rattrapes, c'est comme une journée d'absence, quoi. Donc, moi, j'aime bien favoriser, par exemple, plutôt les formats demi-journée. Mais est-ce que, du coup, toi aussi, tu sens des choses comme ça qui ont peut-être évolué pendant quelques années ou...
Alors moi, c'est un peu un mélange de tout. Non, en fait, si tu veux, ta question, elle n'est pas évidente parce qu'elle arrive un petit peu trop tôt dans le développement de mon activité. En tout cas, le programme que je propose, donc effectivement, c'est un programme long sur la durée, mais les temps d'accompagnement sont morcelés et de courte durée. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui mobiliser un travailleur indépendant sur des... Bah déjà, une journée complète, c'est compliqué parce qu'effectivement, quand il est en formation, il ne fait pas autre chose. Mais par contre, tu transmets pas tout ce que tu as envie de dire ou en tout cas pas aussi bien que tu veux le faire. Enfin, il y a un minimum, il y a un temps minimum à avoir si tu veux faire les choses bien, quoi. Donc, en fait, c'est un mix des deux. Voilà. Il faut que tu arrives à la fois à mobiliser des personnes, en fait, sur un temps donné, pour moi, de plusieurs semaines, parce que le temps de tout voir, sachant que là, je te parle de mon programme. Spécifiquement, hein, je ne sais pas si c'est ta question exactement.
Non, c'était plus dans le marché des gens, quelle est leur manière d'appréhender la formation, que tu vois, les salariés, par rapport à ton expérience que tu as eue en tant que salarié, par exemple, est-ce qu'il y a plus une demande? Moi, je sens qu'effectivement, on n'est plus trop dans cette demande 2, 3 jours d'affilée, par exemple, tu vois, pour les entreprises. On va plus facilement, maintenant, elles me parlent plus facilement de demi-journée, alors que moi, à l'époque, j'étais à contre-courant. Tous les formateurs étaient en mode journée, journée, journée. Même dans les écoles, c'était journée, journée, journée. Et moi, je suis arrivée, j'ai dit non, mais par contre, moi, les journées complètes, je les fais un petit peu. Je me suis dit, waouh, ça va pas me convenir. Et puis, je vois bien que c'est lourd aussi pour les personnes. Donc, je demandais à chaque fois des demi-journées. Mais j'étais déjà un peu, enfin, j'étais un extraterrestre à ce moment-là. Et par contre, maintenant, je sens que c'est plus facilement accepté et demandé. Ça, c'est un peu plus normal. Est-ce que tu as vu comme ça des changements sur les modes de consommation de la formation?
Non, j'ai pas eu l'occasion d'en voir parce que, si tu veux, quand j'étais en poste dans l'association où je travaillais, nous, c'était des formations longues. On avait les stagiaires 15 jours avec nous et après, on avait des modules beaucoup plus courts à la demi-journée. Paradoxalement, tu vois, sur la demi-journée, on avait beaucoup de mal à capter les gens. Et en fait, c'était surtout parce qu'à cette période-là, en avant-saison, ils étaient en formation pendant 15 jours. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les formations, ils en ont juste ras-le-bol, quoi. Mais par contre, oui, quand on était les autres actions de formation, elles étaient sur la durée et il y avait de toute façon, ça ne pouvait pas être autrement puisque c'était réglementé. C'était des ministères de l'Éducation nationale et du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, on appliquait le référentiel. Mais par rapport on va dire, au comportement que je perçois aujourd'hui, effectivement, c'est un peu ambivalent parce que j'ai l'impression que les gens veulent un accompagnement sur la durée pour vraiment qu'on les... Tu vois, qu'on les épaule sur tout le cheminement. Mais par contre, effectivement, c'est par petits bouts, peut-être d'une demi-journée ou 1 heure et demie, par-ci, par-là, quoi. Voilà, parce qu'après, comme tu dis, il y a de mobiliser l'ensemble d'une équipe sur une journée entière, le travail à côté, il n'est pas fait. Enfin, c'est ça, il faut aussi s'adapter. Le mieux, selon moi, c'est d'en discuter en amont avec le client. Et c'est un élément sur lequel j'insiste beaucoup, c'est ce que j'appelle la prise de brief, et que tu définisses vraiment le format idéal et ce que tu vas en mettre, enfin ce que tu veux mettre dedans pour répondre en fait aux attentes de ton client. Donc tu vois, même avant d'animer ta formation le jour J, il y a tout un travail de préparation en amont, il y a une recherche à effectuer, et j'ai pas de réponse universelle à te donner sur ça, mais en revanche, oui, pour moi, cette prise de brief-là, elle est essentielle. Et si tu veux que ta formation soit réussie, il faut absolument que cette prise de brief-là soit bien faite, quitte à en faire une, deux, voire trois, mais que vraiment le contrat de départ soit très clair.
Oui, je te rejoins complètement. Que tu aies ta base, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux proposer, ton programme dans le fond, quoi, le squelette, mais après adapté sur la durée, le format, la délivrabilité en fonction du besoin du client, quoi.
C'est ça, t'as dit le mot, hein.
Voilà.
Adaptabilité. Pour moi, le formateur, c'est ça. C'est une personne qui s'adapte. Et si t'as pas cette capacité-là, c'est compliqué. Surtout que dans la formation professionnelle ou toutes les autres, hein, je pense, il y a aussi des imprévus. Donc, il faut aussi être en mesure de répondre à ça, s'adapter. Et ouais.
Et est-ce que tu peux, alors, expliquer pas dans le détail parce que c'est une usine à gaz, hein, enfin, et puis ce serait, je pense, un épisode à part entière sinon, mais les principales réglementations pour devenir organisme de formation, parce que c'est moi, pour échanger avec de nombreuses personnes qui sont, on va dire, en prestataire de services comme moi dans le conseil et qui font de la formation, souvent ils m'ont demandé, est-ce que t'es OF du coup? Et je leur dis toujours non, je travaille moi pour le coup avec des OF partenaires. J'ai toujours fait ça parce que aussi, attention, je me dis moi, si je deviens OF, c'est parce que ça va être une grosse, grosse partie de mon activité. Mais comme je faisais beaucoup de prestations, financement en fonds propres de l'entreprise, donc facturation classique qui passe en charge et pas forcément une prise en charge en co, bah, je voyais pas l'intérêt de mettre tous ces efforts, ces audits Calliope et toute cette toute portée, bah, tout ça, parce que c'est quand même, il faut, ça demande beaucoup de temps. Donc, j'avais pas choisi d'être OF. Dans quel cas, en fait, ce serait intéressant de le devenir pour un solopreneur? Et est-ce que les obligations sont lourdes, enfin, qu'est-ce qu'il y a à faire, grosso modo, quoi.
Alors, c'est une question intéressante. J'aimerais apporter deux précisions. La première, c'est qu'une entreprise qui dispense de la formation est un organisme de formation au sens structurel et juridique du terme. Un travailleur indépendant qui dispense de la formation et qui dispose d'un numéro de déclaration d'activité est lui aussi un organisme de formation au sens structurel et juridique du terme. À partir de là, il y a des obligations qui leur incombent. Il y en a deux exactement, à savoir transmettre chaque année le bilan pédagogique et financier, donc qui résume en fait leur activité de formation, et de tenir une comptabilité à part. Après, il y a Calliope. On en entend parler, ça peut faire peur. Et puis Calliope, on entend tout et n'importe quoi en fait sur Calliope. Ce qu'il faut savoir, c'est que Calliope n'est pas obligatoire pour proposer aujourd'hui des formations professionnelles. Ça veut dire que si tu fais de la formation mais que tu n'es pas Calliope, tes formations, elles seront juste financées sur les fonds propres des clients et des stagiaires. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu expliquais avec tes factures qui passent en charge sur la comptabilité de l'entreprise.
Effectivement, tu as certaines qui passent vraiment en prestation, que ce soit du conseil ou de la formation. Et quand il y en a qui sont prises en charge, ce que je fais aussi, par contre, bah, je suis formatrice à coller à un OF.
Un organisme, oui, bah c'est ça en fait. C'est, si tu veux, il y a des. Alors, il y a un intérêt effectivement à être organisme de formation si on est solopreneur. Moi, je te répondrais que oui, parce que ça va t'apporter de la crédibilité d'une part, ça va apporter aussi du professionnalisme dans ton activité, parce que même si tu passes pas Calliope, il y a toute une organisation à avoir sur tout ce qui est notamment la contractualisation de tes commandes. Et après, ça va t'apporter aussi de l'autonomie. Tu vas gérer à 360 ton activité de formation. Mais heureusement, alors pour débuter ou parce que tu proposes des formations de manière, on va dire, ponctuelle et que c'est vraiment pas ton activité principale, il y a des solutions qui existent, telles que les coopératives d'activité ou encore le portage salarial, où là, tu interviens effectivement en sous-traitance d'un organisme de formation. La condition, c'est d'adhérer, pour le coup, à ces processus qualité.
Ah bah oui, bien sûr. Du coup, t'as le côté. Enfin, alors moi, du coup, c'est pas une coopérative ni du portage, c'est je suis intervenante, quoi. Donc en fait, je suis le
C'est de
prestataire,
la sous-traitance, ouais.
voilà, de l'OF. Et tout l'ensemble de la prestation est facturé sous l'OF. Je reverse mon pourcentage et ensuite j'ai ma part par rapport à la prestation de formation en tant que telle. Donc ça apporte de la souplesse parce que voilà, effectivement, j'ai envie de dire, la question à se poser, c'est. Combien, à hauteur de combien tu vas faire de la formation? Enfin, moi, je trouve que c'est pas utile si c'est un petit pourcentage de ton activité, je sais pas moi, 10 000 euros, 15 000 euros par an. Par contre, ça commence à vraiment être une grosse partie, là, effectivement, faut peut-être se poser la question, quoi.
C'est ça. En fait, quand tu veux devenir OF, c'est pareil. C'est comme quand tu veux devenir formateur, il y a vraiment des questions à se poser. C'est est-ce que ça va être ton activité principale? Est-ce que tu veux vraiment être autonome? Est-ce que tu vas vouloir certifier ton organisme de formation? Et quelle est ta clientèle? Est-ce que ta clientèle est composée à 90% de salariés qui peuvent débloquer du CPF? Auquel cas, il te faudra maintenant, depuis peu, obtenir Calliope, mais après, il y a un gros travail pour pouvoir faire enregistrer ta formation au RNCP et au RS. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, effectivement. Il y a un travail de recherche, en fait, à faire sur le milieu de la formation et sur les possibilités qui sont offertes à toi et en fonction de ton projet.
Et pour du coup comprendre ton accompagnement, est-ce que tu interviens sur parce que tu as accompagné des personnes qui vont lancer un programme de formation, donc est-ce que c'est sur la partie justement je monte mon programme, je le conçois et je le vends, ou est-ce qu'il y a aussi ce côté je le vends en devenant OF, je deviens aussi OF. Est-ce que c'est inclus ou pas dans ton accompagnement?
Alors, il y a tout.
OK.
Il y a de tout. Oui, en fait, si tu veux, j'aborde naturellement la partie sur la conception pédagogique. C'est bien d'avoir une idée. Maintenant, il faut la concrétiser, il faut l'intégrer dans un programme et avec des paliers en fait d'acquisition de compétences, des objectifs à atteindre. Et après, comment tu vas vendre ce programme-là, mais au-delà de ça, comment tu vas gérer cette partie-là de ton activité. Même si tu n'es pas Calliope, il y a des obligations à respecter. Ça va être l'envoi du devis, la convention. Après, tu as des attestations de fin de formation à transmettre. Voilà, soit tu fais le choix d'externaliser tout ça à quelqu'un dont c'est le métier, ou alors tu décides, parce que tu as le temps, parce que tu es quelqu'un d'organisé, parce que c'est le projet qui te tient à cœur, de créer ta structure et de passer ton Calliope, ou alors de tout préparer. Moi, dans l'accompagnement, c'est on met tout en place dans l'éventualité où un jour tu aurais envie de passer ton Calliope. Mais tu es autonome sur la gestion et la création à la fois de ton organisme de formation et de la conception de tes programmes.
Ok. Donc, il n'y a pas la passation du Calliope en tant que tel. Tu prépares, mais c'est pas derrière, tu sors de ton programme TOF Calliope.
C'est ça, voilà. Il y a l'aspect conception, formation et la partie vraiment transmission, mais il y a aussi un organisme de formation. Un formateur, c'est aussi toute la partie gestion de ton organisme de formation. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place une organisation qui soit organique et vertueuse pour t'éviter d'y passer des heures. Mais en revanche, je t'accompagne pas et on va pas. Le but, c'est pas de passer
D'accord,
Calliope.
ok. C'est important
En
de
tout
le
cas, tu
savoir.
seras prêt si jamais un jour tu te dis voilà.
Non, parce que certains le font, donc voilà, qu'on comprenne bien où
Oui,
tu t'arrêtes.
certains le font. Je l'ai eu fait pour mes deux, l'organisme de formation pour lequel je travaillais et puis pour le mien. Et non, enfin, c'est. Moi, c'est implémenté de manière naturelle, mais c'est pas quelque chose, j'accompagne pas là-dessus
Ok.
spécifiquement.
Et du coup, en ce moment, bah, si on veut aller plus loin avec toi sur le sujet, s'il y a des personnes qui ont envie de devenir formateur, d'ajouter cette casquette, du coup, tu proposes un beau challenge, si tu peux nous en dire quelques mots.
Oui, c'est mon actualité, merci. Oui, j'organise un flash challenge donc, qui s'appelle 5 jours pour créer et vendre ton programme signature. Donc l'objectif, donc c'est du 25 mars au 29 mars prochain. C'est 100% gratuit, c'est 100% en ligne. On se retrouve tous les jours de 12h30 à 13h30 en live sur Facebook. Et l'objectif, c'est vraiment à chaque live une thématique. Donc, on va définir ton persona, on va aller creuser ses besoins. On va aussi travailler sur la partie, la posture du formateur, transformer ton programme aussi en un parcours de vente unique. Et puis après, effectivement, toute la partie devenir organisme de formation et gérer ta structure.
Super. Et donc, pour s'inscrire, moi, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et ça se passera sur quelle plateforme, du coup, ce challenge, sur
Alors,
Facebook
les
ou...
inscriptions, donc c'est oui, c'est gratuit, mais inscription obligatoire. Donc, les inscriptions, c'est via mon site internet, c'est www.celiadcs.com. Et il faut demander à rejoindre le groupe Facebook pour effectivement pouvoir accéder au live et au replay après, quoi,
D'accord. Et ben.
pour pouvoir avancer à son rythme.
Parfait, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Merci pour tout, Célia. Eh ben, écoute, c'est un vaste, vaste sujet, hein, comme on peut le voir, la formation.
Oui, bah, il y a tellement de choses à dire que ouais, synthétiser, c'est un peu compliqué, ouais.
Je pense qu'on a été pas mal.
Bah, j'espère en tout cas.
Oui, n'hésitez pas à nous faire des retours, ce soit moi ou Célia, directement pour échanger ou approfondir la conversation. J'ai envie de dire, t'es joignable, t'es active sur quelle plateforme si on veut faire un retour sur LinkedIn, Instagram,
Mon site, alors non, mon compte LinkedIn est à l'abandon, ça ne sert à rien d'y
Ok.
aller. non, Instagram, ouais.
Instagram.
Instagram ou mon site internet,
Ok. Eh
voilà.
bien, parfait. Merci pour tout, Célia.
Merci Muriel.
Si vous aimez ce podcast, je vous invite à me laisser un avis 5 étoiles avec un mot doux sur votre plateforme préférée. Un grand merci pour votre soutien.